Bonjour à tous, c'est Carte Blanche de midi à 13h. Aujourd'hui, on en reparlera de cet horaire un petit peu raccourci. Bienvenue sur Cause Commune de midi à 17h tous les jours sur 93.1 FM et puis ensuite de 21h à 4h du matin. Heureux de vous retrouver pour cette première émission de 2020. J'ai le 2020 amer. Je vous, nous, souhaite une belle année, mais il faut reconnaître qu'elle ne commence pas sous les meilleurs auspices. En même temps, si le 1er janvier à minuit tout était remis à zéro, ça se saurait. Alors on continue encore et encore à lutter pour faire exister les paroles autrefois tues, car la parole est le premier rempart face à l'injustice. Alors que les procès durent et ont des résultats souvent incertains, une partie des victimes et de leurs alliés ont pris le chemin de l'opprobre, la dénonciation publique du violeur, du voleur, du pollueur, du harceleur. Cela mène à toutes sortes de dérives nouvelles, de nouvelles injustices, des personnes dont la vie est ruinée par une dénonciation calomnieuse. D'autres s'octroient un succès et des estimes en se faisant passer pour des victimes. C'est grave, il faut lutter contre cela. Mais il n'existe qu'un moyen de lutter efficacement contre ces dérives, ça s'appelle la justice, une justice à laquelle on peut croire. En novembre dernier, nous apprenions que 4 enquêtes sur 10 concernant la police dans le cadre des Gilets jaunes, était classé sans suite.
Et depuis le début des manifestations de Gilets jaunes, près de 200 enquêtes comme celle-ci ont été lancées rien qu'à Paris. Sophie Nomeyer, bonsoir.
Bonsoir.
Comme à Strasbourg, y a-t-il eu beaucoup de classements sans suite?
C'est vrai que le nombre de classements sans suite peut paraître important. Sur les 146 enquêtes déjà clôturées par la police des polices à Paris, eh bien 54 ont été classés sans suite à ce stade, soit près de 4 sur 10. Alors dans la majorité de ces cas, la justice a estimé que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée et pour d'autres, une douzaine, comme pour Lilian à Strasbourg, le policier n'a pas pu être identifié.
Donc ça veut dire qu'aucun policier n'a été renvoyé devant la justice?
Si, on vient de l'apprendre, 2 policiers sont convoqués au tribunal correctionnel d'ici la fin de l'année pour des faits qui remontent au 1er mai dernier. Vous le voyez sur ces images, ce policier qui jette un pavé risque jusqu'à 3 ans de prison. Et un autre policier, celui qui gifle ici un manifestant, lui, encourt jusqu'à 5 ans de prison. D'autres pourraient être jugés, car de nombreuses enquêtes sont toujours en cours, notamment pour les faits les plus graves. À cette heure, eh bien, 18 ont été confiés à un juge d'instruction.
Merci Sophie pour toutes ces précisions sur les enquêtes de l'IGPN.
C'était un extrait du journal de France 3. Rien ne dit que ces affaires classées sans suite méritaient d'être poursuivies, sauf que des éléments qui nous parviennent témoignent du contraire. Samedi 20 avril, Mélanie était frappée d'un coup violent de matraque à la tête. Alors qu'elle était seule, loin des autres, loin des manifestants, et tout à fait pacifique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le parquet de Paris, dans un courrier adressé à Mélanie, là aussi cité par France 3 sur son site internet. Dans cette lettre, le parquet de Paris explique à Mélanie pourquoi sa plainte contre X pour violence volontaire avec arme par personne dépositaire de l'ordre public a été classée sans suite. Les images ont fait le tour du monde, elles sont violentes et explicites, la justice française ne passera pas. Dès lors, les violences, les menaces, la haine sont des conséquences logiques et regrettables. Le gouvernement joue les pompiers pyromanes en ne tentant pas de corriger le tir de LBD. Une autre information précieuse nous est donnée par le parquet de Paris. Selon l'autorité judiciaire, le classement sans suite s'explique car elle était en dehors du parcours déclaré de la manifestation. Soit, mais ça ne justifie en rien la violence, seulement une éventuelle arrestation. On apprend également que malgré les sommations, Mélanie a continué à marcher en direction du barrage de police, pacifiquement et au premier rang. Donc toujours pas de quoi justifier la violence. Mais, ajoute-t-il, elle était suivie par plusieurs personnes qui se cachaient derrière ses rangs, comprendre les rangs pacifiques, pour jeter des projectiles sur les policiers. Ce sont des mots rapportés d'un adjoint au chef d'état-major. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a des individus violents dans une foule, c'est toute la foule qui est sanctionnée, ici, à coups de matraque. Cela signifie que potentiellement, il ne peut y avoir aucune affaire de violence policière en manifestation, puisqu'elles ont toujours lieu dans le cadre de violence. À Nantes, le 21 juin, et à Paris, le 1er mai, la sanction prenait notamment la forme de gaz lacrymogène. Les conséquences furent, dans le premier cas, la mort d'un jeune homme tombé dans l'eau. Dans le cas de Paris, ce fut un mouvement de foule, une fuite dans une cour de la Pitié-Salpêtrière, qui avait conduit le ministre de l'Intérieur à parler d'attaque, ce qui est faux. On se souvient également que ce jour-là, un jeune homme noir avait été poursuivi et frappé dans les couloirs de sa cité universitaire par des policiers venus intervenir dans l'enceinte de l'hôpital. Il était juste descendu voir ce qui se passait. Punir la foule pour les faits de quelques-uns n'est pas et n'a jamais été une attitude judicieuse de la part de l'autorité. C'est une réponse injuste et l'injustice engendre toujours la violence. C'est pourquoi cette année, nous allons continuer sur Cause Commune à lutter contre l'ignorance. Ce qui nous anime, nous passionne, ce qui nous fait venir jusqu'à ce micro sur notre temps libre, l'idée d'être utile au monde et aux gens qui le peuplent. C'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui dans La Couleur du Jour, mais avant, une première pause musicale, le premier choix de Valentin de l'émission Escalade Tapes. Chaque semaine, il nous propose ses pépites. Il va continuer à le faire en 2020. Son premier choix s'est donc porté sur Christopher Madigan. Le morceau s'appelle Forest Follies. Il s'agit de la bande originale d'un jeu vidéo appelé Cuphead. Alors il nous explique. Christopher Madigan est un percussionniste, batteur et compositeur canadien. Également, entre autres, membre de l'Orchestre du Ballet National canadien ou encore l'Orchestre Symphonique de Toronto. La BO du jeu vidéo Cuphead est sa première contribution en tant que compositeur de bande originale. Ici, il compose une musique jazz parfaite pour l'ambiance et l'esthétique du jeu qui nous ramène aux vieux dessins animés des années 1930. Alors même si vous ne vous intéressez pas aux jeux vidéo, regardez à quoi ça ressemble, car, nous dit Valentin, c'est vraiment cool et impressionnant.
Cause commune. Thank you. Carte blanche, votre midinale du mercredi sur Cause Commune, 93.1 FM.
La couleur du jour est un changement de costume. J'enfile ma casquette de guide touristique et vous emmène dans les journées du 9 et 11 janvier. Ces jours de mobilisation contre la réforme des retraites, une radio a émis de manière transversale depuis plusieurs villes de France, que ce soit avec des studios ou grâce à des reporters, en direct dans les manifestations partout en France. Cette radio, elle s'appelle La Centrale, et quand elle a commencé à émettre depuis La Parole Errante à Montreuil, le jeudi 9 au matin, elle nous a offert en guise d'apéritif un petit retour en arrière. Après un mois de manifestations, comment continuer à trouver l'énergie pour se mobiliser ? Un collectif féministe s'est posé la question, et comme une petite souris, un micro de La Centrale s'est glissé dans leur réunion pour entendre la réponse. Ce collectif préparait une manifestation féministe pour ce jeudi 9 janvier à 13h. Parmi les témoignages, je voulais vous en faire entendre un, celui d'une femme gilet jaune, un discours passionné et terriblement révélateur.
Je voulais aller dans le sens de ce que dit Francis. Moi aussi, je suis depuis le 17 novembre sur le terre. Il y a du LPD qui fuse, on risque nos vies. Alors malgré les dissensions qu'on a eues, quand on est sur le terre, on est des CISA. Parce qu'on risque nos vies ensemble. Et s'il y en a une qui est agressée par la police, moi, je suis prête à mourir pour vous défendre. D'accord ? Malgré tout. Voilà. Pour dire ça déjà, quand on est sur le terre, on est des sœurs de guerre, on est des sœurs. Donc je veux voir tout le monde sur le terre. Et celle qui est sur le terre, c'est ma sœur, moi. Voilà. Tout à l'heure, les gens disaient, il y en a qui ont peur d'y aller en manifestation. Mais il y a plein de façons de se mobiliser dans ce mouvement. Et je voulais saluer le travail de toutes ces femmes qui sont en sous-marin, sur les réseaux sociaux, qui tiennent des groupes d'hébergement, comme 4 Suns. Bon, Bigouden, elle est facho. Bon, on va dire 4 Suns plutôt. Allez sur ce groupe. Et des groupes hébergement, covoiturage. Et si vous êtes parisienne, il y a un moyen aussi d'apporter vraiment quelque chose au mouvement et aux personnes radicales, c'est de les héberger. Oui. Les Parisiens, ouvrez vos portes, ouvrez vos cages d'escalier, ouvrez vos portes, hébergez les gilets jaunes, hébergez-les. Les mecs qui viennent, ils arrivent de province, ils savent pas, ils connaissent pas Paris, ils sont perdus en fait. Donc avoir un endroit où tu peux manger, dormir, c'est hyper important pour leur sécurité, pour pas repartir en province aussi quand on a bu, parce que oui, il y a des gens qui boivent, parce que on flippe tous en manif, évidemment. On risque nos vies, on est blessés, j'ai perdu une dent, j'ai comme, ben voilà, on a tous meurflé. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'est pas aussi assez nombreux. Il est où le peuple depuis un an ? Les communistes, je les ai vus là le 8, ils étaient où avant ? Pourquoi tant de temps à arriver ? On est des monstres les précaires ? Pourquoi la gauche caviar, elle a mis tant de temps à arriver ? C'est quoi ça ? Mais plus jamais je vote FI, plus jamais je vote les communistes. Mais arrivez les gars, putain, bougez vos culs, on est en train de crever nous, on est en train de se faire massacrer. Alors en plus là, pour ceux qui sont un petit peu timides, vous avez de la chance, on est dans du plan-plan, on fait du République Bastille, il n'y a pas de risque, c'est déclaré. Donc alors là, c'est vraiment le moment d'y être, quoi. Et après, je voulais juste dire un petit peu mon regret pour vous qui préparez les AG. Alors déjà, bravo pour cette initiative de cet AG ce soir, désolé d'être en retard, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Je suis aussi en soutien au TGI. Je voulais aussi passer une dédicace à toutes les femmes interpellées depuis le début du mouvement, Maria, Karine, Amélie. Et je voulais dire que la justice, non seulement c'est une justice de classe, mais en plus on a affaire à une justice patriarcale. C'est-à-dire que les femmes qui sont arrêtées dans le mouvement, elles prennent cher. Donc il faut aussi rejoindre le groupe de Candice. Un petit mot ou sourire pour les condamner. Voilà, celles qui ne vont pas en manif, mais il y a plein de façons de participer. Et il y a des femmes qui ne peuvent pas venir parce qu'elles sont mères célibataires et tout ça, ou autre chose, ou handicapées, elles sont hyper présentes. Faites vos groupes, multiplions les groupes femmes gilets jaunes, il faut qu'il y en ait plein, il faut que la parole des femmes aussi, elle soit multiple, tu vois. Et juste aussi... pour le 18, donc il y a une action commune là qui se fait, qui a été initiée par Cerveau Non Disponible. Vous avez dû en parler peut-être déjà. Ça serait bien qu'on s'unisse tous et qu'on fasse un cortège féministe. En tout cas, nous on y sera. On sera avec, je pense, Syndicat Sud, c'était les femmes de Saint-Denis. Tu parlais tout à l'heure des femmes en Amérique du Sud, mais nous on l'a fait à Saint-Denis. D'accord, il y a la Ella qui est décédée, qui avait déjà été portée plainte au commissariat de Saint-Denis. On a été devant le commissariat de Saint-Denis pour dire la police nous protège. Ça crève les yeux, une femme qui porte plainte, ça ferme les yeux. On y a été devant le comito. On veut tout le monde maintenant, tout le monde dans la rue, il n'y a pas d'excuse. Et si vous n'êtes pas dans la rue, soyez sur les réseaux. Mais c'est pas un peu, c'est non-stop. Parce que nous, ça fait 24 heures sur 24 depuis le 17 novembre de l'année dernière. Donc, et aussi, j'aurais bien aimé aborder cette question, mais après je vais m'arrêter là parce que déjà je suis arrivée en retard, c'est pas poli, donc je vais pas trop m'éterniser. Juste par rapport à la visibilité des femmes dans le mouvement Gilets jaunes, j'aimerais bien que ça soit un thème à la prochaine AG, parce que franchement, on a affaire à des gadjots, je vais pas dire de nom, parce que comme j'ai de la voix et que j'ai une grande gueule, j'ai déjà pas mal d'embrouilles avec pas mal de gens, voilà. Mais il y a des mecs, même s'ils vont dire oui, je suis pas macho, machin, les mecs, ils ont un ego comme ça. Et quand il y a une femme qui parle devant une caméra, mais genre, ça les choque. Comment une femme à la caméra? Mais c'est moi d'habitude. Non, mais, donc, moi, personnellement, j'aime pas être trop filmée, tout ça, j'aime pas me mettre devant. C'est chacun. S'il y a des femmes qui ont du power. Putain, les meufs, prenez les mics, prenez les caméras, prenez les photos, montrez-vous, les femmes en première ligne, voilà. Excusez-moi, merci beaucoup.
Nous, femmes mobilisées contre la réforme des retraites, en AG le 8 janvier, nous sommes conscientes que cette réforme va aggraver notre situation déjà injuste. Les inégalités dans le monde du travail sont décuplées quand nous prenons notre retraite.
Cette réforme accentuera encore plus notre précarité, qui elle-même nous rendra plus vulnérables aux violences sexistes. Aujourd'hui, dans le monde entier, les femmes dénoncent et se battent contre ces violences. Les deux sont liés. Nous, les femmes, avons aussi le droit à une retraite décente.
Nous souhaitons aussi nous adresser à nos camarades hommes en grève. Soutenez-nous dans notre combat pour l'égalité. Organisons des garderies collectives pour permettre à toutes les femmes de se mobiliser, de prendre la parole en AG, d'aller manifester, de participer aux actions. Nous appelons toutes les femmes à entrer dans la lutte. C'est toutes et tous, ensemble, que nous pourrons faire retirer cette réforme et avancer vers un monde plus juste.
Violence sexiste, violence sociale, même combat contre le capital. Violence sexiste, violence sociale, même combat contre le capital.
Carte blanche, votre midinale du mercredi sur Cause Commune, 93.1 FM.
À la fin, vous avez pu entendre la motion décidée collectivement par ce rassemblement féministe et une ultime répétition du chant qu'elles allaient chanter le jour même. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France évidemment. Début décembre, la centrale se crée sous l'impulsion de plusieurs radios locales, dont Cause Commune, et à Nantes, c'est Jet FM qui se transforme le temps des manifestations en la centrale. Jeudi, un écrivain nantais, Bernard Bretonnière, s'y est déplacé pour y lire sa lettre ouverte au préfet. Une autre histoire d'injustice, l'injustice infligée par la désorganisation de l'administration, une injustice infligée aux plus faibles d'entre nous, les étrangers. Je laisse le présentateur de La Centrale à Jet FM nous présenter Bernard Bretonnière.
Avec un écrivain bien connu par ici, Bernard Bretonnière, qui est un compagnon de route des réfugiés, des sans-papiers, et qui a une lettre à nous, une lettre qu'il a écrite au préfet, une lettre ouverte, qu'il est venu nous lire en direct.
Oui, bonjour. C'est une lettre, donc je la lis. Voilà. Elle est datée, elle a été postée sur Facebook le 28 décembre. Monsieur le préfet de la région des Pays de la Loire, monsieur Claude Darcourt, permettez-moi s'il vous plaît ou pas de ne pas vous envoyer cette lettre ouverte et de me contenter de l'écrire. Vous l'expédiez reviendrait tel que je le subodore à uriner dans un crin-crin puisque les barrages qui vous protègent l'intercepteraient avant qu'elle ne soit déposée sur votre bureau et que si par miracle cela advenait, elle serait illico et verticalement dirigée par votre main, qu'on dit de fer, dans la préfectorale poubelle. C'est une anecdote personnellement vécue qui me fait écrire. Mais, comme le dit Georges Didier Huberman, on ne témoigne jamais pour soi, on témoigne pour autrui. Accompagnant une malagasie, en but à un problème administratif ubuesque avec son visa, je me suis rendu lundi 23 décembre à votre préfecture pour demander à vos services de démêler ce sac de nœuds. Nous sommes arrivés à 14h30, sachant que la préfecture fermerait ses guichets à 16h15. Dehors, je dis bien dehors, puisque ses portes étaient fermées et gardées, nous avons attendu dans une file de près de 100 personnes. Un peu avant 15h30, constatant qu'il restait plus de 50 personnes devant nous, à moins d'une heure de la fermeture, nous avons renoncé. Le lendemain, j'ai téléphoné au standard de la préfecture. La mise en attente de mon appel a duré une bonne demi-heure. Lorsqu'une personne m'a répondu, je lui ai expliqué la demande de cet ami. Cette personne m'a répondu qu'elle n'avait aucune idée de la procédure à suivre et qu'elle ignorait si la préfecture était compétente. Puis, je l'entendis interroger plusieurs de ses collègues. Dans l'écouteur, je percevais un brouhaha considérable fait de nombreuses voix, sans doute étais-je en communication avec l'accueil, qui m'empêchait de comprendre clairement ce que me disait mon interlocutrice. J'ai toutefois deviné, plus qu'entendu, qu'elle me conseillait de venir physiquement à la préfecture, me précisant qu'on pouvait prendre aussi un rendez-vous en ligne. Quelques jours plus tôt, un ami étranger en procédure de demande d'asile avait ainsi demandé un rendez-vous via Internet et on lui en proposa un en mars 2020, alors que, bien sûr, ces démarches exigeaient une intervention rapide et obligatoire. J'ai quand même tenté cette prise de rendez-vous électronique. Réponse, il n'existe plus de plage horaire libre pour votre demande de rendez-vous. Veuillez recommencer ultérieurement. Même réponse le mercredi, puis le jeudi. Nous n'avons pu revenir à la préfecture que vendredi 27 décembre. Plus tôt, par prudence, soit à 12h15. Bien que nous sachions que la préfecture ferme de 12 à 13h30. Auparavant, même après avoir attendu d'abord dehors en raison de l'affluence, on entrait dans la préfecture où l'on prenait un numéro d'appel et l'on attendait assis sur une banquette lorsqu'on trouvait une place. On attendait, je parle par expérience, 2 heures les bons jours, plus souvent 3 heures. Ce qui explique que les files d'attente se formaient dès 6h le matin, 3h avant l'ouverture, quand les étrangers ont tous rendez-vous en même temps à 8h45. Nous sommes donc arrivés ce vendredi à 12h15, nous plaçant à l'arrière d'une file d'une cinquantaine de personnes, dans le froid et le vent. À partir de 13h30, un monsieur sécurité a fait entrer les gens au compte-gouttes, la grille s'ouvrant et se refermant sur chaque personne, telle une guillotine. Aucune impatience dans la file, aucune incivilité, chacun restant à sa place avec calme et résignation. Une heure passa encore qui nous permit de progresser de 20 cm, puis 2 heures, bientôt 3. Mais il fut 16h15, heure fatidique de la fermeture, jusqu'au jeudi suivant. Après 4 heures d'attente, nous n'avons pas pu entrer ni échanger sans aucun membre du personnel. Il n'y a plus d'accueil accessible dans votre préfecture. Comme vous le savez, ces gens qui se rendent à la préfecture sont en grande majorité des étrangers, parce que soumis à une folle paperasserie. Alors, lorsqu'un Français se présentait pour quelques démarches personnelles, demandait-il, éberlué, « Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» Eh bien, c'est ainsi chaque jour, chère madame, cher monsieur. Voilà donc, monsieur le préfet, l'image que vous donnez de l'accueil que réserve aux étrangers l'État français que vous représentez. Un accueil dans lequel se conjuguent l'irrespect et le mépris. Un accueil indigne que des centaines de citoyens nantais peuvent constater clairement chaque jour de 6h à 16h15 en passant devant la préfecture dont l'entrée se trouve située à un carrefour très emprunté du centre-ville. Vous me voyez donc révolté par cette situation, non pour ce que j'y ai personnellement vécu, mais pour ce que vous faites vivre à des centaines, à des milliers d'individus traités comme du bétail. Je suis français et vous faites honte à mon pays, pays dit des droits de l'homme, dit terre d'asile, dit des Lumières. Je vous prie de croire, monsieur le préfet sans respect, en l'assurance de mes respectueuses salutations.
Carte blanche de midi à 14h tous les mercredis sur Cause Commune 93.1 FM.
Toujours à l'écoute de Cause Commune, il est temps pour nous de découvrir le deuxième choix de Valentin pour cette émission. Valentin, je vous le rappelle, présente chaque semaine son émission Escalade Tapes. Si vous êtes friand de ces découvertes, et c'est tous les vendredis soirs à 23h pendant une heure sur Cause Commune. Nous, on va rester à Nantes avec un artiste qui s'appelle Kid Caméléon, Caméléon avec un K, et voici ce qu'en dit Valentin. Il nous dit que ce jeune rappeur a sorti en 2019 son premier EP intitulé « Les chroniques de la flemme » en forme de 8 morceaux de rap aux accents rock, et pour cause, Kid Caméléon a fait aussi partie d'un groupe de rock. Le tout donne un résultat de rap français qui sort des sentiers battus, mais qui sait malgré tout se faire l'écho des grandes questions, parfois existentielles, de la jeunesse française. À suivre, car ça va être bien.
Le réveil hurle à m'envrier les tympans, et l'onirisme ambiant s'apaise pour laisser place à la désillusion des 4h30. Le premier pas dans la purge, celui qui fait le plus mal. Rétractation fœtale, réserve d'énergie vitale à sec, j'essuie mes larmes. Essor de ma léthargie, repousse l'inévitable, adresse une dernière prière à mon lit, mon sanctuaire. Le temple que je quitte pour la journée, elle se passera comme toutes les autres dans l'attente de l'étreinte de morphée. Et je suis pas prêt à morfler, mais la cavale s'amorce. Je me lève amorphe, les yeux écorchés par le manque de sommeil. Le besoin de palper crée des pulsions de mort. Alors dans la nuit noire de la campagne, les regards se tournent vers le ciel. Et c'est sous l'aura scintillante de Cassiopée que je pars au casse-pipe. Lorsque les dés sont pipés, c'est toujours les mêmes qui trichent. C'est toujours les mêmes qui triment. L'odeur nauséabonde qui rôde sur le parking te le confirme à l'usine.
Cause commune 93.1.
Trace au vestiaire, or sort aussi vite que l'éclair, comme pressé de retrouver l'enfer, alors que c'est tout le contraire. Approche de l'instant fatidique, battement du cœur qui s'accélère, réduction drastique de mes chances de fuite. Le chef de service attend montre en main qu'on vienne pointer. Cet enculé ressortir le fouet s'il le pouvait sur la ligne de départ à l'heure. Première bataille de la journée, il va falloir les enchaîner pour tenir la cadence jusqu'à l'arrivée. Et des barquettes dans des cartons sur des palettes dans des camions. J'ai traîné ma carcasse sur toute la chaîne de l'agro-industrie volaillère. Depuis la chair me laisse en arrière, quoi mère. Pour une paye de merde, tu pioches ta peine sans sourciller. J'en ai vu plus d'un signé persuadé d'avoir raison. Les pires sont ceux qui prennent plaisir en devenant matons. Démons dans l'antre de la mort, milliards de vices à payer une. Pensez pour ceux pour qui la torture est perpétuelle. Un mélange d'admiration et de pitié pour ceux qui restent au trou. Pour rester sans l'esprit dans cet enfer industriel. J'ai fait une chanson.
Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM. Nous continuons de parler de ces deux jours de manifestation et de ces retransmissions à la radio partout en France par cette nouvelle radio, La Centrale. Et il n'était pas la peine d'appeler nécessairement La Centrale pour délivrer un message. Ainsi, c'est un message vocal qui a été envoyé à cette radio, à cette communauté de radio. Et c'est un de ces messages que je souhaite maintenant vous faire entendre. Un tract à l'écriture délicieuse lu par un auditeur qui n'a même pas cru utile de donner son identité. Ainsi, la poésie nous ouvre-t-elle à un type nouveau de témoignage, l'anecdote anonyme.
Et je vais vous lire un tract de 2018 que j'ai trouvé au mois de mai dans un bar. J'ai pas retenu le nom du village, c'est dans les Monts d'Arrée. C'était un festival de poésie et on suppose que ce tract a été écrit par des poètes de Namur qui se sont déguisés en poètes parisiens. Amputé, Nacron, c'est notre nom. On a un groupe d'intervention avec Antonin et Gamos, avec Ada aussi, et Katia et Myriam. Notre groupe se nomme Amputé Nacron. Nous allons voler une scie à bois et la laisser tremper une semaine dans de l'eau salée, puis nous allons la laisser rouiller au sol, puis en association avec le commando Brigitte, qui est un commando lumineux, déterminé, au grand cœur et plein de malice, nous allons ouvrir un salon de thé dans le 5e arrondissement à Paris, c'est-à-dire que nous allons ouvrir un bâtiment d'avenir avec nos pieds de biche. Comme nos Ibéries ne croupissent toujours pas depuis des ans, nous allons ouvrir un salon de thé avec alcool fort et jus de fruits. Un salon poétique, garanti 100% autonome, non garanti. Là, nous choisirons un mur et nous y clouerons notre scie rouillée. Nous la regarderons intensément. Nous allons ouvrir le premier salon de thé pour poètes autonomes avec pied de biche. Femmes, arabes, noires, pouilleuses, exilées, prolas, prolos, c'est nous les poètes autonomes à pied de biche. Si tu te sens femme, arabe, pouilleuse, noire, en exil, prolas, prolos, tu es la bienvenue dans le commissariat ouvert avec nos pieds de biche. Si tu ne te sens ni biche pouilleuse, ni femme arabe, ni noire ou blanche prola, ni quepon, ni junkie avec ou sans chien, ni femme de ménage, ni lesbienne, ni amoureuse, ni paysanne enceinte avec carré Hermès passé à la javel pour dire ton lien aux races maîtresses, mais si tu te demandes comment faire pour devenir poète autonome, sache que c'est très simple, il te suffit de faire rouiller une scie à bois et de la clouer à hauteur de regard, au mur d'un commissariat ouvert avec pied de biche. C'est simple. Nous, on a déjà une scie. Si tu veux, rejoins-nous, on ira la clouer ensemble. Elle est déjà bien rouillée, idéale à souhait pour les infections graves et les regards intenses. On la regardera intensément. Voilà, nous sommes le groupe d'intervention Amputé Nacron. Et avec le commando Brigitte et avec les amis d'un peu partout, on t'invite à rejoindre l'autonomie ouverte à coups de pieds de biche, avec nos scies à bois rouillées, clouées au mur, et nos regards intenses. Bisous, bisous.
Carte blanche, de midi à 14h, tous les mercredis sur Cause Commune, 93.1 FM.
Je vous le disais, la force de ce collectif de radio est de s'épauler à travers toute la France. Et samedi matin, depuis Brest, on pouvait entendre un reportage sur une manifestation à Rouen. C'est un rassemblement suite à une charge policière et une arrestation. En début d'émission, je disais que l'injustice engendre toujours la violence. C'est peut-être un peu exagéré, sauf à considérer que la colère est une forme de violence. À Rouen, les syndicats se sont unis dans cette colère pour demander la libération de Vianney, un jeune homme arrêté pour un tag réalisé pendant la manifestation. Si je rappelais combien la colère engendre de nouvelles violences et injustices, ce serait oublier qu'elle est également fédératrice et qu'elle renforce la détermination. Voici donc le discours d'un représentant syndical de Rouen qui commence par une interpellation. Orale cette fois.
Donc quelques mots peut-être d'introduction là, sur le rassemblement de ce matin, hein, pour rappeler ce qui s'est passé hier à la manifestation. Mais d'abord pour commencer, peut-être qu'on va demander tous ensemble aux policiers en civil des renseignements généraux qui sont sur le trottoir de bien vouloir reculer de 50 mètres. Parce que le comportement de la police hier, vous n'êtes pas les bienvenus et on vous le dit clairement. Allez, il y a un trottoir en face, il y a de la place. De toute façon, vous lirez, ça sera dans Paris-Normandie, 76 Actu, France 3, vous aurez les infos, mais vous n'êtes pas les bienvenus. Donc voilà, on va donner un peu les informations. Voilà, depuis le 5 décembre, on a fait
je ne sais plus, je n'ai pas compté un certain nombre de manifestations, hein, évidemment les très grosses, 5, 10, 17, et hier, des manifestations plus petites, il y a eu des opérations de filtrantes, notamment au rond-point des Bâches, au rond-point du carrefour de la prison. Il y a eu, voilà, on ne cache pas, il y a eu des blocages dans les zones industrielles, des blocages du dépôt de la TCR, du dépôt de la TCR de Luce, mais aussi du dépôt tramway. Hein, pour nous, ça fait partie des outils de la lutte quand on a un gouvernement qui est sourd aux revendications des travailleurs et qui est sourd au soutien très majoritaire de la population. Et jusqu'à maintenant, on va dire qu'on avait un comportement de la police, on ne va pas dire qu'il était bien, il ne faudrait pas déconner, hein, mais qui était, voilà, qui ne nous empêchait pas de manifester et de faire notre boulot de gréviste, notre boulot de citoyen, notre boulot de syndicaliste. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, on était 30 000 dans les rues de Rouen. La préfecture était très mécontente du fait que l'intersyndicale a imposé un parcours qui passait dans la rue Jeanne d'Arc. La préfecture a fait des pressions sur l'ensemble des organisations syndicales CGT, Force ouvrière, FSU, Solidaire, pour qu'on change le parcours de cette manifestation. Et on considère, hein, comme on le dit dans les manifs, que la rue, elle est à qui? La rue, elle est à qui?
Elle est à nous!
Et que la rue Jeanne d'Arc, elle est à qui?
Elle est à nous!
Ah, il n'y a pas de raison qu'il y ait des rues interdites dans Rouen, que ça soit en semaine, que ça soit le samedi. Hein, la Constitution a prévu une liberté de manifester. Et donc, aujourd'hui, on est des organisations responsables. On est dans une intersyndicale qui désormais intègre, et on en est très fiers à Rouen, nos camarades des Gilets jaunes. On organise les manifestations ensemble, en responsabilité, et ce qui s'est passé hier, c'est insupportable. Alors pour rentrer dans le détail, c'est clair, on était un certain nombre malheureusement directement dans ce qu'on pourrait appeler le point d'impact, et au niveau donc du cortège de Gilets jaunes, on avait 4 camarades, hein, et ils ont raison, ça fait partie de nos modes d'action. On diffuse des tracts, on colle des affiches dans la ville, on met des autocollants sur tous les poteaux. D'ailleurs, il en reste dans la voiture après pour faire peut-être une petite déco. Hein, ça serait, je trouve, pas mal de faire une petite déco sur l'arrêt de bus. Et donc, voilà, dans les modes d'expression, et oui, il y a des tags. Voilà, donc on avait deux camarades avec deux soutiens qui faisaient des tags dans la rue Jeanne d'Arc. Et la police, c'est clair, a pris ça comme prétexte pour intervenir sur décision du commissaire à la sécurité publique, d'intervenir violemment en traversant la manif, en interpellant un des camarades, et ensuite, plutôt que de calmer les choses, en essayant de faire exploser la manif, utilisant à plusieurs reprises gaz lacrymogène, et comme vous avez pu le voir dans les vidéos, parce que voilà, hein, tout ça, c'est pas la CGT, c'est pas l'intersyndicale qui vous le dit, c'est sur tout Facebook, c'est sur tous les réseaux sociaux, hein, vous avez vu les vidéos, et avec des centaines de coups de matraque, sans aucun sens, et au moins deux blessés graves, avec notamment des points de suture. Voilà, cette situation, elle est intolérable. Bien évidemment, ça s'explique, c'est pas un hasard, c'est quand on a un gouvernement faible, il leur reste quoi? Ils n'ont pas le soutien de la population. Leur camp, y compris dans la bourgeoisie, est divisé. Vous avez vu les députés, y compris de la majorité République En Marche, qui se divisent. Voilà, la division, elle est partout. Il leur reste quoi? La police, la justice et l'armée. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'est que hier soir, partout, on voit des images, à Rouen et ailleurs, de manifs qui dégénèrent. Et justement, les organisations syndicales, avec les citoyens, avec les gilets jaunes, on n'a pas répondu à la provocation. On a refusé de jouer au chat et à la souris dans la rue du Gros-Horloge, et on a amené la manifestation jusqu'à la fin, jusqu'à la capitainerie. Là encore, on a refusé les provocations, on a tenu les assemblées générales, on a tenu la réunion de l'intersyndicale pour préparer les AG de ce matin, les actions, et ce midi, on sera de nouveau à la gare de Oissel, cet après-midi à Tourville, ce soir à 18h au 106 pour les vœux de la métropole. Demain à 14h30, de nouveau en manifestation à l'hôtel de ville, lundi à 6h, au niveau du rectorat, rue de Fontenelle. On sera là lundi, mardi et tous les jours qui suivent jusqu'au retrait du projet.
Il est l'heure d'une nouvelle pause musicale et Valentin a choisi pour nous Lolita Holloway et le morceau s'appelle Hit and Run. Alors que nous parlons de ces gens qui bravent des températures, il nous propose une manière originale de se réchauffer. Il nous dit parce que quand on est au mois de janvier et qu'il fait froid, il faut toujours avoir un morceau de disco sur soi. Et Lolita Holloway est une chanteuse, la chanteuse qu'il nous faut, nous dit-il, principalement active dans les années 70 sur la scène disco. Elle fut notamment samplée, c'est-à-dire reprise, de nombreuses fois dans les années 90 pour des morceaux house, style alors encore en pleine gestation. Une voix hélas plus célèbre qu'un nom, donc, mais quelle voix et quelle pêche!
Cause commune.
toujours à l'écoute de Cause Commune et de Carte Blanche de midi à 13h ce mercredi 15 janvier 2020. Pour finir cette émission, une autre colère, celle des reporters. J'avais déjà invité deux journalistes du jeune collectif REC, Reporters en colère. Ils se sont réunis le 10 janvier pour demander la libération de Jean Segura, un photoreporter arrêté lors de la manifestation du 9. Et il est sorti libre du commissariat, justement, le 10 janvier. L'affaire, en l'occurrence des accusations de violence contre des policiers, a été classée sans suite, faute d'éléments, selon le journaliste. Et c'est justement son témoignage qu'on a pu entendre sur la centrale samedi. Alors le voici.
La, 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 la.
Il avait pris un coup de matraque. Moi, j'étais allé le voir, le journaliste de Line Press. C'était à la hauteur de Lafayette, à côté de l'église. Je suis allé le voir, j'ai vu qu'il avait pris un coup de matraque sur la tête. J'ai pris, du coup, son statut. J'ai su que c'était un journaliste de Line Press. Et en fait, ce qui s'est passé au moment de cette deuxième charge, c'est que moi, je le vois, en fait, être au contact des policiers et être en train d'être interpellé. Donc, du coup, je m'approche et je précise qu'il est journaliste, que je suis journaliste. J'essaye de faire en sorte qu'il ne l'emmène pas. Et donc là, on se fait tous emmener joyeusement dans une interpellation un peu musclée. Ouais.
Ça s'est passé comment en garde à vue ?
En garde à vue, ça s'est passé à peu près tranquillement parce que aussi, moi, je pense que j'ai un tempérament assez calme. Donc,
t'as reproché quoi ? T'as discuté avec des policiers ?
Non, le premier OPJ qui m'a écouté a été assez désagréable, mais certainement parce qu'il a vu violence sur dépositaire de l'autorité publique.
C'est ce qu'on t'a reproché au début ?
Ouais, mais c'est le motif de ma garde à vue et violence sur dépositaire de l'autorité publique. C'est le motif de ma garde à vue.
Sur un policier ?
Sur un policier, ouais. C'est le motif de ma garde à vue.
Ça tient toujours ce...
Non. Alors là, à l'heure actuelle, du coup, ça a été classé. Donc du coup, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas assez d'éléments. Et effectivement, ça a été... Moi, j'ai appelé directement le cabinet d'Ari Halimi, en fait, puisque justement, j'étais proche et que par l'intermédiaire de l'enquête qu'on avait fait avec la meute sur Cédric, en fait, je venais tout juste d'avoir la carte d'Ari, en fait. Donc ça tombait très bien. Et quand ils m'ont demandé si je voulais voir un avocat, j'ai donné la carte d'Ari directement. Et donc c'est un de ses associés qui est venu. Et effectivement, il a relevé quelque chose qui était très important, je pense, dans l'enquête. C'est que la violence, en fait, on m'a reproché une violence, sans parler de quelle violence, en fait. Il n'y avait aucune caractérisation de la violence. Donc l'avocat a notamment relevé que de quoi on est en train de parler.
Donc il y a des policiers qui ont écrit des procès-verbaux t'accusant de violence.
Le procès-verbal, alors je sais, oui, c'est un procès-verbal.
Si on t'interpelle pour violence.
C'est ce qui était marqué, c'est ce qui était marqué. Ouais. Il y a des photos de ça. Oui, il y a un policier qui s'est plaint effectivement que j'avais été violent avec lui. Donc je sais pas si précisément.
Tu penses porter plainte
Oui, moi je pense porter plainte, peut-être pas sur la question des violences, j'en sais rien, il faudra le discuter avec les avocats, mais en tout cas je pense porter plainte pour le dégât matériel. Le dégât matériel complètement injustifié et irraisonné. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que voilà, Line Press, on les connaît un petit peu, c'est véritablement pas des gens qui partagent la même méthodologie de travail que la nôtre chez la meute. Mais je fais également partie de reporters en colère. Donc on se bat notamment pour éviter ce genre d'entrave et ce genre de violence contre n'importe quel journaliste. Et même citoyen, puisque n'importe quel citoyen a le droit de documenter les violences policières. Sur le terrain, enfin dans l'espace public. Donc c'était quoi ta question ?
Ma question c'était est-ce que tu penses.
Oui, donc je pense porter plainte pour le dégât matériel parce que voilà, la personne qui m'a interpellé, c'est la même qui a détruit mon matériel et c'est la même par ailleurs qui a détruit le matériel de ce collègue de Line Press, Simon, et également de la même façon que ça avait déjà été fait, et ça je tiens à le préciser, de la même façon que ça avait déjà été fait pour Rémi Buzyn qui s'était fait découper sa carte de presse en deux, là la carte de Line Press a été également découpée en morceaux joyeusement avec crachat au visage inclus. Vous êtes pas de la presse, vous êtes des merdes, voilà. Donc ça serait pas mal qu'il y ait un point sur ce qui est journaliste, ce qui est pas journaliste, et qu'on puisse avancer aussi sur la question de la carte de presse, parce que visiblement pour les policiers ça commence à être véritablement complexe en fait.
Jean, on peut voir le matos?
Je l'ai montré, ouais, tout à l'heure.
On le rappelle, il y a un policier donc, qui a shooté sur ton, sur ton téléphone et shooté sur ton objectif de...
Exactement. Shooté sur l'objectif et sur la batterie. Les deux.
Allez, toujours sur les circonstances de l'arrestation, donc ça a été relativement violent. Ils vous ont plaqué au sol avec une clé de sécurité, c'est ça ?
Clé d'étranglement.
Une clé d'étranglement.
Clé d'étranglement, ouais. Précisément, ils n'ont pas pu procéder à un plaquage ventral, même si c'était sur le ventre. Il y a des collègues du coup de la personne qui était en train de m'étrangler qui ont essayé de m'écraser les mains, m'écraser les bras comme ils essayent de faire pour immobiliser quelqu'un en règle générale. Moi sur le moment précis, en fait j'ai d'abord été étranglé debout et puis ensuite j'ai basculé vers le sol. Quand j'étais au sol, je sentais que j'étais en train de perdre véritablement mon souffle. Et là je le répète encore une fois, j'ai pensé à tous les noms que j'ai évoqués tout à l'heure qui sont décédés à cause de cette technique d'interpellation. Et comme je le dis également, j'ai fait du judo pendant 10 ans. Je sais ce que c'est une clé d'étranglement. Je sais à partir de quel moment on doit l'arrêter ou on ne doit pas l'arrêter. En général, en tournoi, il suffit simplement de taper sur le bras pour signifier que là, on n'a plus d'air. Donc moi, je l'ai signifié à la personne qui était en train de m'interpeller que j'étais en train de suffoquer. J'ai ensuite tourné la tête vers le haut pour signifier aux collègues, s'il vous plaît, dites-lui quelque chose parce que là, je suis en train de perdre mon souffle. Et ça n'a pas spécialement été desserré, mais en tout cas, on m'a ensuite amené sur le côté et c'est là où on a défoncé mon matériel. Quand il a fait la clé d'étranglement, il m'a dit « t'es toujours journaliste, fils de pute ». Enfin, « t'es toujours journaliste, salope », c'était ça. « T'es toujours journaliste, salope », donc je suis toujours journaliste. Et salope, je sais pas.
Carte blanche, votre midinale du mercredi sur Cause Commune, 93.1 FM.
L'injustice engendre toujours la colère. La colère est fédératrice. En témoigne ce collectif REC, des reporters en colère. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le format est désormais plus court en raison d'obligations professionnelles de ma part. Alors, pour me faire pardonner, je vous laisse avec Valentin Texier et Escalade Tapes. Mais avant, en guise de générique de fin, le dernier choix quand même de Valentin pour cette émission, c'est Hiroshi Sato. Le morceau s'appelle Kalimba Night, principalement actif dans les années 70 et aux années 90. Hiroshi Sato fut l'un de ces artistes japonais qui s'est beaucoup joué des frontières entre les pays et les styles, amenant ça et là des ambiances brésiliennes à sa pop, des nappes de synthé sur des compositions plus jazz. Un parfait exemple, ce morceau Kalimba Night mélange ambiance nocturne, percussions latines, solo un peu jazzy et le tout avec une esthétique très city pop. Bref, tout le Japon des années 70 et le reste en 4 minutes 14. Et vraiment feel good. Une très bonne journée à l'écoute de Cause Commune. Je vous laisse donc, je vous le disais, avec cet épisode 10 de Escalade Tapes. Et puis je salue Quentin, qui était le réalisateur de cette émission et qui est parti vers de nouvelles aventures. À la semaine prochaine. We'll be right back.
We'll be right back.